France Culture.
Bonsoir à tous. Israël lance une vaste opération terrestre dans la bande de Gaza. L'armée israélienne l'annonce cet après-midi dans le nord et dans le sud de l'enclave palestinienne. L'État hébreu avait intensifié ses bombardements hier. Nous sommes à Jérusalem dans un instant. Messe inaugurale du pape Léon XIV aujourd'hui au Vatican. Dans la foulée, le souverain pontife a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que le vice-président américain J.D. Vance. Récit à suivre dans ce journal également. L'élection présidentielle en Roumanie, suivie de très près par l'Union européenne, quelques mois après l'annulation du même scrutin par la commission électorale du pays. Et puis nous serons au Festival de Cannes pour parler de deux films qui ont retenu l'attention de notre envoyé spécial, Nouvelle Vague et L'Agent Secret. Ce sont donc de vastes opérations terrestres, pour reprendre le terme utilisé par l'armée israélienne, qui ont commencé cet après-midi dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Le commandement israélien l'a annoncé aujourd'hui, alors que les bombardements sur l'enclave palestinienne se sont intensifiés hier. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
En direct de Jérusalem, RFI pour France Culture. Michel, quel est l'objectif de cette offensive israélienne ?
Eh bien, pression militaire, négociations sous le feu, Benjamin Netanyahou et son gouvernement font tout pour brouiller les pistes. À ce stade, des colonnes de tanks pénètrent dans la bande de Gaza, au nord sur l'axe de Jabalia et au sud sur l'axe de Khan Younes, selon des témoins sur place. L'armée israélienne annonce que c'est le début de l'opération Chariot de Gédéon, l'invasion terrestre de la bande de Gaza, une intervention qui a été précédée par une semaine de frappes aériennes intensives de préparation qui ont provoqué de très nombreuses victimes. Le Sunday Times britannique, qui publie souvent des fuites des services de sécurité israéliens, donne ce matin le plan de l'armée israélienne. Diviser la bande de Gaza en trois zones distinctes, séparées par quatre corridors sous contrôle militaire israélien, en d'autres termes, la segmentation de l'enclave palestinienne.
Et dans ces conditions, Michel Paul, que vaut la déclaration ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou ? Il se disait ouvert désormais à un accord qui inclurait la fin des combats, disait-il.
Oui, c'est une déclaration qui fait suite à une conversation téléphonique musclée avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Benjamin Netanyahou a dû lâcher du lest et le résultat est la reprise dans la capitale qatarienne des négociations avec le Hamas sans condition préalable. Il faut s'en tenir au communiqué du bureau du Premier ministre israélien. L'équipe de négociation à Doha s'efforce d'épuiser toutes les possibilités d'accord, que ce soit dans le cadre du plan américain de Steve Witkoff ou dans le cadre d'une fin des combats qui inclurait la libération de tous les otages, l'exil des terroristes du Hamas et le désarmement de la bande de Gaza. C'est ce que l'on peut lire dans ce texte. Les médias en Israël sont unanimes, Antoine. L'administration américaine perd patience.
Michel Paul en direct de Jérusalem, RFI pour France Culture. Merci à vous. Deuxième tour de l'élection présidentielle aujourd'hui en Roumanie. Deux candidats, le champion de l'extrême droite et défenseur de Donald Trump, George Simion, en tête du premier tour, 40% des voix. Et en face de lui, le centriste Nicosur Dan, maire de Bucarest. Le scrutin de l'automne dernier avait vu la victoire du candidat d'extrême droite, mais la commission électorale du pays avait annulé ses résultats et disqualifié Kalin Georgescu pour des soupçons d'ingérence russe. Quelques mois plus tard, donc, Bruxelles surveille de très près cette élection puisque l'Union européenne pourrait voir un nouveau dirigeant populiste d'extrême droite hostile à la gouvernance européenne. À Bruxelles, les précisions de Jean-Jacques Herry.
Bien évidemment, au sein des institutions, personne ne dit rien, on ne commande pas les échéances électorales, c'est la règle. En coulisses, les diplomates, eux, attendent de voir, car même en cas de victoire, on ne sait pas encore comment pourrait se comporter Georges Simion à la table européenne, bien qu'il soit un habitué des critiques anti-bureaucrates et anti-Bruxelles. C'est d'ailleurs aussi ce que décrit Christophe Grudler, député européen Renew.
Il peut aussi être une sorte de Janus à deux visages, avoir un discours profondément anti-européen en Roumanie, et puis venir à Bruxelles avec un joli sourire, parce qu'évidemment, il compte sur les subventions que donne l'Union européenne pour aider au développement de la Roumanie.
Pour Florent Parmentier, secrétaire général du CEVIPOF et chercheur associé à l'Institut Jacques Delors, Georges Simion, s'il venait à être élu, aurait néanmoins du mal à changer les règles du jeu européen. D'abord parce que le futur président roumain, quel qu'il soit, ne disposera pas d'une majorité stable à l'Assemblée nationale. Il n'aurait donc pas la même assise qu'un Viktor Orban en Hongrie, par exemple. Mais sur certains points bien spécifiques, Georges Simion pourrait réussir à former une minorité de blocage en faisant équipe avec Budapest et Bratislava.
ça ferait un troisième État membre de l'Union européenne frontalier de l'Ukraine qui se trouverait véritablement critique vis-à-vis de la politique de soutien actuelle de l'Union européenne à l'Ukraine. C'est peut-être là, effectivement, qu'on pourrait commencer à voir des changements.
Fermeture des bureaux de vote ce soir à 21h heure locale.
Jean-Jacques Herry. La messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV s'est tenue ce matin, place Saint-Pierre, devant quelques 200 000 personnes. Dans son homélie, le pape a notamment dénoncé un modèle économique dominant qui exploite, selon lui, la nature et marginalise les pauvres. Le pontife américain s'est exprimé devant 156 délégations de ministres et chefs d'État. Et en marge de la cérémonie, les rencontres diplomatiques se sont multipliées avec l'Ukraine au cœur des discussion. À Rome pour France Culture, Bruno Duvic.
Trois semaines après la photo Trump-Zelensky en tête-à-tête dans la basilique Saint-Pierre le jour des obsèques de François, la messe d'inauguration du pontificat de Léon XIV a donné lieu à un nouveau ballet diplomatique. Cette fois, c'est le vice-président américain J.D. Vance qui a rencontré Zelensky, premier tête-à-tête depuis l'altercation dans le bureau ovale, une demi-heure chez l'ambassadeur des États-Unis en Italie. Les deux avaient déjà échangé une poignée de main avant la messe. Parmi les sujets de conversation, le coup de fil Trump-Poutine attendu demain, dont l'Américain souhaite qu'il aboutisse à mettre fin au bain de sang en Ukraine. Ce coup de fil promis par Trump occupe aussi les gouvernements allemands, français et britanniques qui souhaitent s'entretenir avec l'homme de la Maison-Blanche avant, pour le préparer. C'est le chancelier Merz qui le dit, toujours depuis Rome. L'Allemand a parlé avec Marco Rubio, secrétaire d'État américain, lui aussi dans la capitale italienne. Autre chorégraphie, celle à trois, Meloni, Vance, von der Leyen, au Matignon italien cet après-midi. En Ukraine, la semaine à venir sera cruciale, estime la présidente de la Commission européenne. Enfin, le pape lui-même a reçu Zelensky, qui remercie le Vatican pour sa proposition de jouer les intermédiaires dans d'éventuelles négociations Kiev-Moscou. Cet activisme diplomatique exceptionnel donnera-t-il des résultats ? Réponse dans les jours à venir.
En France, ça y est, c'est terminé pour l'élection du président du parti Les Républicains. Le vote est clos depuis un peu moins de 10 minutes pour les 121 000 adhérents qui devaient se prononcer par voie électronique. Le résultat est attendu d'ici 19h. On saura alors qui de Bruno Retailleau ou de Laurent Wauquiez prendra la tête de LR. 18h07 sur France Culture et au Festival de Cannes, week-end très américain. Ce soir, le film de Wes Anderson, The Phoenician Scheme, candidat à la Palme d'Or sera projeté. Mais en attendant ce long métrage au casting 5 étoiles, Bill Murray, Tom Hanks, Scarlett Johansson ou encore Benicio Del Toro, deux films de la compétition ont retenu l'attention de notre envoyé spécial sur la croisette. Bonsoir Antoine Guillot.
Oui, bonsoir Antoine. Alors par charité, on ne va pas s'étendre sur Die My Love, la nouvelle ineptie de l'écossaise Lynn Ramsay, un film tourné aux États-Unis avec les stars locales Jennifer Lawrence et Robert Pattinson, dont le cabotinage n'a d'égal que celui de la mise en scène qui s'épuise en vaines outrances datées. Non, ce sont bien Nouvelle Vague et L'Agent Secret qui ont créé l'événement ce week-end, deux films qui visent, en travaillant la matière même du cinéma et de ses images, à faire vivre à l'écran le présent d'un passé qui résonne toujours aujourd'hui. Aucune star dans le nouveau film de l'Américain Richard Linklater, mais que des visages connus, puisque tous les interprètes ont été choisis pour leur ressemblance, on peut même parler de sosie, avec celles et ceux qui, il y a 65 ans, ont révolutionné le cinéma en France et dans le monde, Jean-Luc Godard en premier lieu, puisque Nouvelle Vague raconte au jour le jour comment s'est inventé et tourné, enfin quand le primo-cinéaste avait de l'inspiration, à bout de souffle. Le film est charmant en ce qu'il montre une jeunesse inventive et insouciante du bouleversement qu'elle va provoquer et tout à fait plaisant, même si on regrette le didactisme exhaustif très Wikipédia de l'ensemble et la dévotion génuflexionnelle devant l'icône, pas sûr que ça aurait plu au Godard tardif qui détestait qu'on l'adore. Beaucoup plus inventif et libre, L'Agent Secret de Kleber Mendonça Filho, le plus grand cinéaste brésilien en activité, nous plonge lui dans l'année 1977, celle où, dans son récif natal, il a découvert enfant le cinéma commercial de genre qui a marqué à jamais son œuvre à venir. Un long récit foisonnant et éclaté qui mettra bien une heure et demie à se rassembler et commencer à prendre sens. Il excelle surtout à nous faire ressentir l'odeur d'une époque et sa logique de dissimulation et de corruption généralisée sous un pouvoir autoritaire qui n'est pas sans évoquer ce qu'a traversé le Brésil de 2016 à 2022 sous Jair Bolsonaro. Encore un grand film politique à Cannes, l'air de rien.
Antoine Guillot en direct de Cannes pour France Culture, merci. Le temps demain avec des orages le matin et de la pluie sur la côte atlantique de la Charente-Maritime au Pays Basque, pluvieux aussi sur le Limousin, le Béarn et le Cantal, grisaille sur la Bourgogne, le Centre et l'Auvergne, 8 à 17 degrés le matin, 19 à 27 l'après-midi.